partage dès aujourd'hui. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Gene Simmons a dit que le rock était mort.
Unless you're an emo band or rap, you're dead.
Bon, je sais que tu pognes pas le 102.1 dans le 90210, mon Gene, mais il y a toujours l'application Boulevard si tu veux te tenir à jour. Je te confirme qu'il se fait encore du Kiss de mon rock. C'est plus que du rock. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
8h pile poil. Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Bon lundi, on est le 11 septembre 2023. Mon nom, c'est Yann Marceau. Très content de vous accompagner jusqu'à 19h en compagnie de Maître Marc Bellemare, comme à chaque lundi. Maître Bellemare, bonsoir.
Allô, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Content de vous voir.
Ouais, moi aussi. Oui, toujours un plaisir d'être ici avec toi, mon cher. Une heure par semaine.
Où étiez-vous?
La grosseur.
Oui, monsieur. La grosse soirée à Québec de radio. Ouais. Où étiez-vous le 11 septembre 2001, Maître Bellemare?
J'étais au bureau. J'étais en entrevue.
Ouais.
À un moment donné, mon frère, qui est avocat avec moi à l'époque, rentre dans le bureau en pleine entrevue, ce qu'il ne fait jamais.
OK.
Il y a une feuille blanche, puis c'est écrit là-dessus, un avion vient d'entrer dans le World Trade Center.
Le premier avion?
Non, il m'écrit juste ça.
OK.
Fait que moi, je me dis, ben, c'est un sans-dessin qui ne s'est pas chauffé son avion, qui est rentré dans... Tu penses pas que c'est un attentat?
Ben non, c'est la dernière affaire auquel on pense. Mais en même temps, quelqu'un qui se pose des questions un peu. Là. New York, il y a comme toujours un pilote et un copilote.
C'est ça, exactement. Alors là, ben, je finis mon entrevue, je me dis, ben, c'est un accident. Je vais le voir après. Je dis, qu'est-ce que c'est un colon qui a... Parce que les tours, on les aimait, on les a visités, nous autres, ouais. Tant qu'ils étaient debout. Et il dit non, il dit, il vient d'en rentrer un autre. Là. Il dit, c'est des terroristes qui ont foncé dans le temps. Alors là, je suis allé dîner à la maison cette journée-là. Et moi, j'ai une fille qui est née en février 2001. Fait que mon ex était en congé de maternité.
Ouais.
Et le problème, c'est que son père et sa mère étaient dans un avion. Eux autres, ils ont atterri à New York, puis ils ont vu par le hublot les tours en feu. Ils sont restés 5 jours. Ils ont sorti, je pense, de Manhattan, ils les ont emmenés au New Jersey. Ils ont sorti pendant 5 jours séquestrés à l'hôtel, questionnaire pour savoir s'il n'y avait pas un lien à faire parce qu'il était dans les airs au moment où c'est arrivé. Mais, tu sais, quelques minutes plus tard ou plus tôt, peut-être qu'il y aurait eu un accident puis qu'il serait décédé dans l'accident. Mais quand même, il était là-bas en même temps. Fait que nous autres, ça a été tout un émoi dans la famille, là.
Ouais, moi, le temps avait complètement arrêté ce moment-là. J'avais été porter ma blonde dans une des deux tours de psychologie à l'Université Laval. Ouais. Puis quand j'étais dans la côte, Néré Tremblay, j'entends Jeff qui dit Hey, il y a un avion qui vient de rentrer dans les tours. Là, dans ma tête, moi, je fais une corrélation entre les tours psycho à l'Université Laval.
Okay.
Fait que je fais un U-turn carrément dans le milieu de la côte. Là. Ça a vraiment été dangereux. Là. J'ai fait un U-turn, puis j'ai remonté dans la côte jusqu'à temps que je comprenne que là, c'était le World Trade Center. Puis que.
Bon, c'était pas les petits tours de Québec. Là.
Ma blonde était en sécurité à ce moment-là. Fait que je suis redescendu chez nous tout en suivant en écoutant la radio. Puis par la suite, en arrivant chez nous, ben là, on avait accès aux images, plus la radio. Puis c'est ça. Quand l'avion numéro 2 est rentré dans le World Trade Center, là, on s'est aperçu que non, c'était une attaque terroriste. Puis on savait plus qu'est-ce qui allait arriver d'autre dans les prochaines minutes. Là. Autant aux États-Unis qu'au Canada, hein, c'était interdiction de vol. Là.
Absolument. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais une anecdote comme ça, mais la veille, il y avait un running gag qui disait que c'est Guy Chevrette qui avait organisé les attentats du 11 septembre parce que Chevrette était ministre des Transports à l'époque.
Okay.
Puis le 10 septembre, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, avait sorti un méga reportage où c'était Stéphane Allary du Journal de Montréal qui avait suivi en auto Guy Chevrette en limousine. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Puis il avait noté qu'entre Montréal puis Joliette, je pense qu'il y avait une dizaine d'infractions au code de la sécurité routière.
Oui, oui.
Dépasse à droite, ouais. Excès de vitesse, 56 affaires. Et ça avait sorti le 10 septembre.
Ouais. Son bodyguard n'était pas sorti à un moment donné pour demander aux journalistes qu'est-ce que tu fais là?
Quelque chose du genre, ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'était le 10 septembre. Chevrette était ministre des Transports. Puis là, moi, j'étais allé en entrevue à TQS. C'était Jean Lapierre qui faisait le téléjournal de 22 heures le 10 septembre. J'avais dit Chevrette devrait démissionner tellement c'est gros. T'as pas juste la ceinture sécurité de Mme Guilbeault, là. C'était quand même beaucoup plus grave. Et le lendemain, l'attentat du 11 septembre. Fait qu'il y avait un running gag qui disait que c'est lui qui avait commandité les attentats, compte tenu que ça a coupé court à nouvelle, qu'il l'avait mis dans le trouble. Parce que quand il arrive une affaire comme ça, ben, il n'a plus de nouvelles à part ça.
Ben Laden, Chevrette.
non, ben tu sais, c'est triste à dire, ouais. Mais ça avait cassé la nouvelle et devant cet excellent reportage. Mais tu sais, pour venir sur les ministères des Transports, il y a Mme Guilbeault qui met pas sa ceinture, qui s'excuse puis qui dit « je suis pas parfaite ». Mais Chevrette, c'était ça, une dizaine d'infractions au code de la sécurité routière. Mais le plus drôle, c'était Sam Elkes, je ne sais pas si tu te souviens. Il était ministre des Transports dans le gouvernement Bourassa des années 90, il était bien jeune. Et il avait dit aux journalistes « ça va trop vite sur le chemin, on roule à 125 sur l'autoroute, tout le monde nous dépasse ». La limite est à 100, tu sais. Moyen cabochon, ministre des Transports, ouais. Dans les années 90.
Mais tu sais, de toute cette histoire-là, juste pour finir avec les attentats du 11 septembre, moi, j'étais dans la jeune vingtaine, là, c'était la première fois de ma vie que j'envisageais la mort. C'est-à-dire, profitons du temps qui nous reste parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. C'était la première fois que j'étais confronté à ça. Puis mon premier réflexe, c'était je m'en vais dans l'armée, puis je m'en vais aider à venger ce qui s'était passé. Puis ben voilà. Mais.
Terrible. Terrible.
3000 personnes qui sont décédées pour rien. Là.
Ouais.
Pour absolument rien.
C'est ça. Mais le coût de l'attentat, écoute, faut-tu vouloir?
Mais c'est entre 400 000 et 500 000 pièces, là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les terroristes, là, on les a jamais revus parce qu'ils sont morts, évidemment.
19 terroristes sont décédés, oui.
Mais venir aux États-Unis, suivre un cours de pilotage, pour certains, dans l'optique de détruire les tours, puis réussir à détruire les tours, mais tu penses à ça, là. Écoute, je sais pas comment ça se fait que ça s'est effondré comme ça. On voit aux nouvelles, là, les étages qui tombent, touc, 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 c'est le kérosène, ça? C'est quoi? C'est le pétrole
c'est
qui
une
fait
bonne
que
question.
Ça a tombé parce que tu aurais pu flusher 7-8 étages en haut parce qu'ils ont pogné les tours en haut, mais là, c'est pas ça. Ça s'est complètement effoiré. Mm.
En raison peut-être de la chaleur, du poids, je sais pas. Faudrait peut-être demander à un ingénieur en structure, mais je sais que, bon, cette histoire-là des tours qui s'effondrent, ça a été repris par les mouvements complotistes, puis ça a été souvent expliqué par les ingénieurs.
Qu'est-ce qu'ils disent, les complotistes?
Bon, ils disent que c'était... Il y avait de la dynamite qui était à l'intérieur des tours du 11 septembre. Mais imaginez-vous à quel point ça prendrait des mois et des mois à mettre des bâtons de dynamite chaque 1 mètre, mettons, pour que tout descende très rapidement. Puis en même temps, tu sais, il faut faire un test là, dans votre entreprise. Là. Dites à quelqu'un, à une seule personne que vous avez à Clamédia, combien de temps que ça va prendre avant que tout le monde dans l'entreprise le sache? Ça va être quelques jours, là, si c'est pas quelques minutes. Fait qu'imaginez-vous... Pour mettre de la dynamite partout, à quel point ça peut prendre des semaines et des semaines, puis à quel point il y a autant de gens qui devraient être dans le coup, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, on planifie de tuer des gens, 3000 personnes. Il n'y avait jamais personne qui a parlé. Moi, les complotistes, là, des attentats du 11 septembre,
c'est absurde,
je trouve ça un peu
ah ouais, c'est comme ceux qui disent que l'Holocauste n'a jamais eu lieu ou qu'Elvis est encore vivant.
Mais est-ce qu'on sait toute la réponse? C'est non. Est-ce qu'on saura tout un jour? Je ne sais pas. Peut-être dans 100 ans. Mais cette journée-là, ça a été une journée atroce. Puis juste revenir sur le dossier de Geneviève Guilbeault. Vous avez été ministre de la Justice. Ce qui est arrivé là, Geneviève Guilbeault, c'est pas banal, là. On a affaire à quelqu'un qui a manqué foncièrement de jugement plusieurs fois.
Mm-hmm.
Et c'est pas comme si elle s'était contentée de se prendre en photo une fois, pas de ceinture, puis après ça, elle met ça sur son Instagram. Non, son Instagram était parsemé de photos d'elle en voiture où elle avait pas de ceinture. Et le personnel politique l'a sûrement averti de ça. C'est-à-dire, Mme Guilbeault, pour l'image, ce serait mieux de retirer ces photos-là. Elle les avait laissés. Là.
C'est un manque de jugement total.
Ben, c'est un manque de jugement.
C'est pas la première fois qu'un manque de jugement.
Puis on parle de quelqu'un qui est pressenti pour certaines personnes dans la population pour être la prochaine première ministre du Québec. Il y a des gens qui la voient déjà comme ça. On va se le dire, quand on regarde son CV, on parle d'une ascension qui est incroyable. Puis elle n'a pas le CV pour être première ministre du Québec, mais en raison de son apparence, en raison du fait qu'elle s'exprime très bien, ben il y a des gens qui la voient à ce poste-là, mais... Je veux dire, à quel point on manque de jugement? T'sais, à quel point c'est pardonnable, ça? Là, c'est pas un enfant de 18 ans. Là.
C'est ça.
C'est une femme, là.
Oui, puis il devrait... Tu sais, je te parlais du reportage du Journal de Montréal, parce que Chevrette était à Montréal à l'époque, mais je me disais, les médias, les quotidiens devraient le refaire. Attendre 6-7 mois, puis commencer à suivre la limousine de Mme Guilbeault dans le chemin. Je comprends que c'est pas elle qui chauffe. Mais il reste que... Penses-tu honnêtement...
C'est des policiers de la SQ qui sont au volant.
Penses-tu honnêtement que la limousine de Geneviève Guilbeault roule à 99 km/h sur l'autoroute?
Ben non.
Hey! Non, c'est pas compliqué. Mais... Tu mets un Kodak en arrière, puis t'assuis, tu vas en pogner des infractions, puis dépasse à droite, puis zigzag sur l'autoroute.
Je demande pas à ce que les gens soient parfaits. T'sais. Tout le monde a le droit d'avoir des petits défauts. Est-ce que vous avez oublié une ceinture? Moi, ça m'est déjà arrivé.
Ben oui, c'est sûr.
J'en demande pas. Mais à un moment donné, là, sur plusieurs mois, plusieurs photos qui sont là, qui sont accessibles à tout le monde, que t'aies pas le réflexe en tant que femme ou homme mature de retirer ces photos-là. T'es pas un plombier, là. T'es ministre du transport.
Ah ouais.
C'est un manque de jugement flagrant. Non, mais cela dit, ouais. Peut-être qu'on en reparlera de Mme Guilbeault à un moment donné. Elle va sûrement nous aider.
Mais je pense qu'elle a un Facebook ou en tout cas, elle va certainement ses réseaux sociaux un peu partout. Puis, comme tu le disais tantôt, bien, son image, c'est important. Fait qu'elle essaye de développer une forme d'image. Mais moi, ce que j'ai vu comme photo dans je sais pas trop, sur Journal du Québec ou ailleurs, c'était qu'elle est en train de... On dirait qu'elle regarde son cellulaire, elle prend ses messages, puis elle trouve ça drôle, je sais pas, là. Mais c'est vrai, t'as raison. Alors, pourquoi? Puis, je pense qu'au gouvernement, là, ils ont dû faire tout un ménage dans la semaine qui a suivi, là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont intérêt à enlever quelques photos. Des fois, c'est des photos qui peuvent avoir l'air un peu prétentieux. T'sais. Des fois, tu es dans l'opulence. Des fois, tu es dans un restaurant. Tu as pris un petit verre.
Mais tu sais, de voir que la politique, maintenant, c'est comme occupation double, là, que le monde y regarde à la télé, je trouve ça particulier. Pour moi, la politique, c'est de régler les problèmes que les gens vivent au day-to-day. C'est pas de se prendre constamment en photo puis d'avoir des belles sacoches puis d'avoir une belle ceinture puis un beau complet. La politique, c'est... Hey, les citoyens se plaignent que les vidanges ne sont pas ramassées. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les vidanges ne sont pas ramassées? Vous avez besoin de quoi? Plus de monde, plus d'effectifs? Parfait. T'sais, la politique, c'est pour régler des problèmes, pas nécessairement pour bien paraître auprès de la population. Mais ça, je n'ai peut-être pas les mêmes valeurs que certains politiciens, Maître Bellemare. Je veux juste vous parler de Pierre Poilievre.
Okay.
On a plusieurs dossiers à aborder ce soir. Que pensez-vous de Pierre Poilievre actuellement, qui est pressenti pour être le prochain premier ministre du Canada?
Ben moi,
si on se fie au sondage.
Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il c'est un gars brillant, c'est un gars radical, c'est un gars cassant, mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas premier ministre encore, mais je trouve qu'il a adouci un peu son discours. Là. Il ne parle plus des bitcoins, puis ces affaires-là, puis du gouverneur de la Banque du Canada. Il s'est assagi un petit peu dans son discours, mais honnêtement, moi, je n'ai rien à dire contre Poilievre. Là.
Puis Justin Trudeau?
Ah, je suis écœuré de Trudeau bien raide, là. J'ai toujours trouvé... lui, il est vraiment affauné, ouais. Là. C'est... Il n'y a pas de contenu. Il nous a endettés jusqu'aux oreilles. C'est woke tout le temps. C'est la dictature des minorités. Il veut rien savoir du Québec. Les droits collectifs, ça n'existe pas. Tout le monde dans sa petite affaire individuelle. C'est le multiculturalisme, je compte ça, parce que je trouve que ça banalise beaucoup la présence du Québec dans le Canada. On a vraiment besoin d'être affirmé de plus en plus si on veut garder notre culture et notre langue. Non, Trudeau, non, j'espère qu'il va être battu. Puis c'est sûr que la seule alternative, le seul parti fédéral, c'est un peu plate, mais c'est ça, le seul parti fédéral qui peut battre Trudeau, mais c'est conservateur. Ouais.
C'est certainement pas le NPD qui a toujours été ami des libéraux. C'est certainement pas le Bloc québécois qui va être élu dans l'Ouest canadien. Donc, effectivement, si vous êtes plus capable de Justin Trudeau, ben c'est les conservateurs qui sont l'autre choix. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai beaucoup aimé le discours de sa conjointe, qui est une immigrée, qui
parle de Montréal.
Ouais, une fille de Montréal qui parle trois langues, français québécois. Je ne sais pas si vous l'avez entendu.
Oui,
là-dessus.
Oui, oui, elle parle comme nous autres.
Mais français, québécois, elle parle en espagnol aussi, puis elle parle très bien en anglais. Capable de prendre la parole pendant 20 minutes là, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement tous les jours devant les caméras ou devant des gens, c'est pas nécessairement évident. Je pense qu'on l'a bien préparé. C'est une femme qui a fait énormément de politique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se sont connus, lui et elle, là, sur la colline parlementaire. Mais c'est de toute beauté voir ce couple-là. Moi, j'aimerais ça qu'on soit plus dans les problématiques qu'on peut avoir au Canada en ce qui a trait à l'économie, exemple, plutôt que sur ce qu'on a entendu parler. C'est peut-être la couverture médiatique, là, mais tu sais, moi, honnêtement, là, les transgenres, je trouve qu'on a pas mal fait le tour. Il fallait statuer à un moment donné, là, mais j'ai hâte qu'on parle des sujets qui nous touchent au quotidien. Tu sais. Je pense que la majorité des gens, 90 % disent, tu sais, les transgenres, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Je pense que la majorité disent, ben, quand ils sont adultes, là, les conservateurs se sont penchés là-dessus. C'est 70 % des gens qui étaient en faveur d'une résolution qui était destinée à interdire les transitions de genre des mineurs. Bon, on s'est entendu là-dessus, à savoir si ça va être récupéré par Pierre Poilievre par la suite. Ça reste à voir, mais j'ai hâte qu'on aille au-delà de ces débats-là. Tu sais, moi, le transgenre, ça me touche pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'économie? Ça va être quoi, son plan?
C'est ça, mais je pense que c'est lui. Il veut parler d'économie, Poilievre. C'est pour ça que après son discours, on l'a, les chroniqueurs s'entendent pas mal tous là-dessus aujourd'hui. Après son discours sur l'économie, et sur la gestion des affaires publiques par Trudeau, il a laissé les congressistes parler d'un paquet de sujets, là, les toilettes pour les transgenres, puis les changements de sexe, etc. Mais je pense que c'est normal que dans un congrès politique, il y ait des résolutions comme ça qui sont plus à saveur morale, plutôt des choix de société, des choix moraux de société reliés au sexe, à la famille, etc., qu'à l'économie. L'économie, c'est un bon terme, si tu veux, un thème principal pour les conservateurs. Mais tu sais, quand tu es en congrès avec Joe Biden, puis Nathalie, puis Jean-Claude, là, qui viennent de partout dans le pays, bien là, il faut que tu parles de d'autres choses aussi, parce que l'économie, ça peut devenir plombant. Alors, il y a toutes sortes de sujets, mais moi, je trouve que la presse qui couvre l'actualité fédérale est tellement anti-Poilievre, là, au Québec, là, C'est l'enfer. Moi, j'en reviens pas. Je lisais ça en fin de semaine, c'était n'importe quoi.
Y a-t-il un peu de mauvaise foi, vous pensez?
La presse canadienne, Radio-Canada, c'est complètement ridicule.
Y a-t-il un peu de mauvaise foi de la part des médias sur la couverture au fédéral?
Bien, de la mauvaise foi, je sais pas si on peut appeler ça de la mauvaise foi, mais un biais journalistique très, très clair en faveur de Trudeau, là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est des gens qui sont satisfaits de Trudeau, puis qui veulent pas voir Poilievre sur place. Ils le trouvent trop radical, ils ont peur de lui. Ils l'associent à la droite américaine, alors que ça n'a absolument rien à voir. Le Parti conservateur du Canada est à gauche par rapport au Parti républicain aux États-Unis. Alors, il n'y a pas de comparaison possible, mais je trouve qu'on a beaucoup de biais. Je lisais ça en fin de semaine, là, les reportages de la presse canadienne. J'ai même envoyé un courriel à la presse canadienne pour dire que c'était M. Sabat, là, qui est un SABA, là, qui est un journaliste de la presse canadienne. J'en revenais pas, il donnait juste la parole à ceux qui étaient contre. Sur la résolution du transgenre, notamment, les toilettes, il faisait parler des gens qui étaient contre la résolution, puis il faisait pas parler les gens qui étaient pour.
Alors que c'est une majorité.
Alors, on savait qu'est-ce que la résolution avait donné comme vote, mais on savait pas pourquoi les gens avaient voté dans ce sens-là.
Ouais.
Mais alors que les autres disaient oui. Comme là, aujourd'hui, là, on fait parler un ancien candidat ou candidate, je sais pas si on doit dire go-fille, conservateur, je sais pas si tu as vu ça, un ancien candidat transgenre qui est déçu du Parti conservateur puis qui décide de plus être conservateur ou conservatrice parce que c'est un transgenre. Alors, pourquoi tu donnes autant d'importance à cette personne-là? Pourquoi tu ne fais pas parler quelqu'un qui est en faveur de la résolution pour dire pourquoi vous êtes en faveur de la résolution? Pourquoi vous ne voulez pas permettre les changements de sexe chirurgicaux ou intrusifs avant l'âge de la majorité?
Mais si je veux aller acheter du pot à SQDC et m'achale avec mon âge, ça prend l'âge requis pour aller à SQDC. Si je veux aller chercher de l'alcool à la SAC, ça me prend l'âge requis pour aller à la SAC. Si je veux aller au salon de bronzage, puis j'ai 17 ans, j'ai pas le droit. Hein.
Acheter des cigarettes.
J'ai pas le droit. Je peux pas aller au salon de bronzage. Je vais acheter des cigarettes.
Des cigarettes.
Ça prend 18 ans.
Acheter de la bière.
Mais changer de sexe.
Ouais, c'est ça. Me faire poser une bisoune, ça, c'est correct. Là,
ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a des résolutions qui ont été prises, puis c'est correct. Moi, j'aime mieux parler des autres. Bon, les résolutions sur les vaccins qui ont été adoptées, donc 66,3% puis 68,1% pour la première qui exige les professionnels de la santé qui divulguent une analyse non censurée de leurs risques et avantages, et l'autre qui affirme que les Canadiens ont la liberté et le droit de refuser les vaccins pour des raisons morales, religieuses, médicales ou autres. Ensuite, on a un 94,6% d'une résolution qui appelle à mettre fin à la discrimination positive dans le financement des chaires de recherche. On a vu ça à l'Université Laval, là. Si vous étiez un homme blanc, vous ne pouviez pas avoir accès à ça. Mais si vous étiez transgenre, ouais, si vous étiez une personne en couple avec le même genre que vous, vous pouviez avoir à ce montant-là. Si vous étiez membre des Premières Nations, si vous étiez noir...
Mettre fin à ça.
Mais on décide de mettre fin à ça.
Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Entièrement d'accord.
Toutes ces résolutions-là, ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, puis je me... Tu sais, si tu demandes à la population en général, tu fais un sondage, les gens qui vont voter aux prochaines élections fédérales, là, tu les questionnes, les électeurs au Québec. Je suis convaincu qu'on aurait des votes qui seraient superposables aux votes au Congrès conservateur, peut-être même plus. Alors, c'est des questions qui sont pertinentes, mais comme tu dis, c'est pas central dans le programme électoral, mais c'est pas une mauvaise idée d'en parler, puis ça intéresse les congressistes, ça intéresse les gens.
Résolution fiscale proposant d'allouer tout excédent budgétaire au remboursement de la dette qui a reçu 92% d'appui. Les délégués veulent aussi, dans une proportion de 83,7%, qu'un gouvernement conservateur appuie l'utilisation continue du pétrole et du gaz, soit la priorité de l'Alberta. Mais en même temps, tu sais, l'économie, ça fait pas bander grand monde, là, mais toute part de l'économie. À partir du moment où l'économie va bien au Québec, à partir du moment où l'économie va bien au Canada, on peut se payer un panier de services qui va faire en sorte que tout le monde va trouver son compte quelque part. Chaque dollar investi, on va se dire « Ah, oh, ben wow, je suis fier de ce qu'ils ont fait aux abords du fleuve Saint-Laurent. » Je sais pas si vous êtes allé sur Champlain, là, mais c'est de toute beauté ce qu'ils ont fait. Là. Ça, c'est notre argent. Je suis fier d'avoir mis de l'argent là-dedans. On a un retour sur investissement. Donc, quand on regarde de ça, la santé, ça va pas nécessairement bien. Puis tu dis, tabarouette, on donne plus d'un milliard de dollars par semaine à la santé. Pourquoi ça va pas, tu sais? Bien, les transferts en santé au Canada, ils vont faire quoi, tu sais? Tout part de l'économie. L'éducation, si on veut plus d'argent en éducation, ça prend de l'argent. Tu sais, la solution de Justin Trudeau, c'est d'en imprimer. Mais il nous a mis dans le trouble.
Ouais, c'est ça.
Qu'il a été élu en promettant des déficits.
Ah ouais, c'est n'importe quoi, Trudeau. Non, mais les libéraux fédéraux en matière de gestion de finances, c'est zéro pin bar, puis c'est pas d'hier, là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Puis tu sais, dans le temps de la pandémie, je comprends qu'il y avait des besoins pour les gens, mais tu sais, l'argent revolait partout. Je sais pas si tu te souviens, là, il y avait tout le monde avait droit à des fonds importants. C'était plus ou moins contrôlé. La crise des passeports, ça a été une gestion épouvantable. Les gens qui attendaient en file en plein hiver pour avoir des passeports, des services à la population au niveau fédéral, ça a été mauvais. Je pense qu'on a fait le tour avec Trudeau. Puis c'est sûr que Poilievre, c'est l'économie. Moi, je suis convaincu que ce gouvernement-là va mieux gérer les finances publiques. On va en avoir plus dans nos poches. Et moi, ça me suffit. Tu sais, je comprends qu'il peut y avoir des questions morales qui peuvent être débattues. Mais je pense qu'on est dû pour un changement de gouvernement. Puis c'est pas pour rien que les conservateurs sont une dizaine de points de plus. Pas au Québec. Mais tu sais que si les votes des Québécois vont ou bien à Poilievre ou bien au Bloc québécois, on peut se retrouver avec l'opposition officielle Bloc québécois. C'est possible. Parce que si le Bloc va chercher 45 comtés, comme Lucien Bouchard en avait eu, je pense que Lucien Bouchard avait eu 52 comtés, puis avait formé l'opposition officielle contre Jean Chrétien. Lucien Bouchard était chef de l'opposition avec le Bloc québécois. T'es sûr de ne pas prendre le pouvoir, mais tu peux te retrouver deuxième parti, par exemple. Ça, c'est possible. On verra bien.
Autre chose, on tombe peut-être plus dans votre tal, Maître Bellemare. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux hier. Moi, c'est des auditeurs qui m'ont transmis ces images-là d'un jeune homme qui sortait d'une exposition de voitures Porsche. Le jeune homme est au volant d'une rutilante BMW M5. Moi, je connais pas ça. J'imagine que vous connaissez ça.
Pas les M5, non.
Mais on parle d'une M5 qui était hyper modifiée avec des chevaux vapeur comme pas possible. Là. Et le gars a perdu la maîtrise de son véhicule parce que en sortant du stationnement, il a décidé qu'il voulait en mettre plein la vue aux gens qui étaient sur les trottoirs. Mm-hmm. Il a décidé de mettre le gaz au fond perdu le contrôle de son véhicule puis est allé ramasser deux personnes. Ce qu'on a su hier, c'est que les deux personnes, leur vie, on savait pas s'ils allaient réussir à passer au travers. Aujourd'hui, bonne nouvelle, une des deux personnes semble aller beaucoup mieux puis on craint plus pour sa vie. Mais le gars, on parle d'un jeune homme de 28 ans. En fait, on parle pas d'un jeune de 16 ans, on parle d'un homme, je dis jeune homme, mais on parle d'un homme de 28 ans qui est accusé de conduite dangereuse après avoir frappé de plein fouet ces deux piétons-là. Je sais pas si vous avez vu le gars lever, là, mais le gars avec son coton ouaté noir a levé 10 pieds dans les airs. Il a atterri pratiquement sur le bumper d'un véhicule, mais sur le bumper du véhicule, il y avait un rack à bessic. Donc, il a frappé le rack à bessic en descendant, puis après ça, il est tombé à terre. Et le poteau aussi est allé le frapper et a frappé l'autre piéton qui s'était fait heurter par le véhicule. C'était pas beau, ces images-là. Mm-hmm. Et ce qui me perturbe le plus, c'est que si le gars s'est blessé, tu sais, le gars, le propriétaire de la BMW, si lui s'est blessé, il va pouvoir réclamer à la SAAQ.
Là. Absolument. Ouais. Ben oui, c'est juste au Québec qu'on voit ces choses-là, l'écraseur écrasé, où on considère comme victime toute personne qui subit un dommage dans un accident de la route. L'écraseur comme l'écrasé. Alors, puis moi, j'ai vu souvent des conducteurs fautifs comme ça qui ont reçu plus d'indemnités que leurs victimes. Surtout dans les cas de décès.
Parce que les blessures...
Parce que dans les cas de décès, ils ne donnent pas grand-chose. Non, c'est des montants forfaitaires. Ça peut aller de 57 000, à peu, 60 000 à peu près, jusqu'à 300 000. Ça dépend si tu as des personnes à charge ou pas, conjoints ou pas. Mais tu peux retirer plus comme blessé parce que tu vas être payé toute ta vie si c'est des séquelles permanentes puis que tu as des rentes versées par la SAC. Beaucoup plus que tes propres victimes. Okay.
Là, c'est pas le cas. Là. Le gars semble pas avoir été blessé, mais Keith Joseph Stéphane, c'est lui le conducteur, là, qui est visé par deux chefs d'accusation pour les blessures qu'il a infligées. Dans le cas qu'il est blessé au dos puis il fait de la tôle, puis il y a un problème de dos, les chèques, ils rentrent-tu quand il est en tôle?
Oui, ils rentrent quand il est en tôle, oui. Ils rentrent, mais ils sont diminués selon le nombre de personnes à charge. Mais les chèques de la SAC rentrent en autant qu'il peut prouver son incapacité. La SAC indemnise les chauffeurs blessés, même en prison, que ce soit en prison provinciale ou en pénitencier fédéral. Ils reçoivent quelque chose. C'est diminué un petit peu. Si tu as, par exemple, quatre personnes à charge, tu vas retirer à peu près la totalité de ton indemnité de remplacement de revenus, même si tu es en prison. Mais si tu n'as pas de personne à charge, tu vas retirer à peu près 30 % de ton montant. Ça, c'est okay. Une modification à la loi depuis 1990.
Donc là, lui est accusé de conduite dangereuse. Est-ce que le juge retire toujours le permis pour des accusations de conduite dangereuse? Parce que de ce que je comprends dans le dossier, le juge a décidé d'interdire complètement le permis de conduire à ce gars-là.
Oui. Ben oui, il peut l'interdire, puis il peut y avoir une interdiction de conduire pendant un certain temps. Il y a toujours un délai minimal dans la loi, là, selon le type d'infraction, comme dans les cas de boisson, tu as une suspension de tant d'années selon le nombre de récidives, mais le juge peut interdire de conduite toute la vie, effectivement. Alors, c'est épouvantable ce que tu me racontes là, mais dans le fond, ce genre d'accident-là survient assez régulièrement. Il y a chaque année à peu près 1000 cas d'accidents avec blessés ou morts relié ou à la conduite avec faculté affaiblie ou la conduite dangereuse ou la négligence criminelle au volant. Ça, c'est de la négligence criminelle. C'est certain qu'ils l'ont accusé comme ça, là. Il y en a beaucoup, des cas d'accidents. On les voit pas tous. Moi, j'en vois beaucoup au bureau, là.
Ouais.
Puis je regarde ça, puis j'en reviens pas. Puis j'ai même déjà vu un gars qui était indemnisé. Il était à Sainte-Anne-des-Plaines, en fédéral. Il avait pogné 5 ans pour le coupable de négligence criminelle au volant. Puis il a été indemnisé pendant les 5 ans parce qu'il a fait une dépression. Le chauffeur, OK? Il n'avait pas de blessure physique, mais il y avait des regrets d'avoir causé l'accident. Qui était probablement authentique, sincère, j'imagine. Mais ces regrets-là se sont traduits en traitement psychologique et il a réussi à être payé par la SAC pendant 5 ans. Alors, il est sorti du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines après 5 ans plus riche que quand il est rentré. Je te le dis, là. Puis ça, c'est pas exceptionnel, là. Les chèques qui rentrent en pénitencier ou en prison, de la part de la SAC et de la CNSST aussi, en autant que tu as été blessé avant de faire de la prison, là, Il n'y a pas de limite.
Mais Maître Bellemare, quand vous vous êtes lancé en politique, là, c'était justement pour abolir le no-fault. Bon, malheureusement, une fois rendu au pouvoir, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez pas faire changer ça. Puis c'était la raison pour laquelle vous vous êtes lancé en politique, donc vous avez décidé de sacrer votre camp. Mais pourquoi les politiciens aujourd'hui se mêlent pas de ce genre de dossier-là?
Ça a toujours été un mystère pour moi.
Manque
parce
de courage?
Ben, j'ai l'impression que tu remarqueras ça, là. Quand c'est compliqué, quand c'est des règles, tu sais, le bien-être social, tu sais, à un moment donné, moi, je me suis dit, comment ça se fait qu'ils n'obligent pas les assistés sociaux aptes au travail à aller chercher leur chèque dans un bureau de solidarité sociale au Québec plutôt que d'envoyer ça par la poste?
Ça avait déjà été fait, là.
Tu te souviens,
ben
à un moment donné,
oui.
On allait chercher les chèques au Colisée.
Oui. Puis là, les assistés sociaux,
pendant la grève des postes,
insultant.
Je pense qu'il y a eu 3 à 5 % des bénéficiaires qui ne sont jamais pointés.
Ouais.
Il n'existait pas, c'était des fraudes.
Ouais.
Alors pourquoi payer l'autobus gratis pour aller chercher votre chèque?
Mm.
À ce moment-là, il va y avoir un minimum de contrôle. On va voir une personne, un être humain. Ils le font pas. C'est des choses comme ça qui sont élémentaires. Les politiciens le font pas parce que ils ont peur qu'il y ait un ressac, ils ont peur que la population aime pas ça. Ils sont ultra sensibles. Ils veulent pas déplaire à la population, ils veulent pas déplaire aux gens qui sont sur l'aide sociale, ils veulent pas déplaire aux bénéficiaires des régimes sociaux.
Oui, mais Bellemare,
fait qu'ils bougent pas, tu sais.
On parle pas des gens qui sont inaptes au travail, là. On parle des gens qui sont aptes au travail puis qui peuvent aller travailler. Eux, moi, je suis entièrement d'accord avec ça, là. On peut les obliger à aller chercher leur chèque dans un bureau d'aide sociale.
Ah oui.
Mais je me souviens, à ce moment-là, on trouvait que c'était déshumanisant.
Non.
Mais en même
ben
temps,
oui.
T'es capable.
Tout le monde va savoir
travailler.
Que je suis le BS parce que je rentre au Colisée pour aller chercher mon chèque.
Ouais.
Mais c'est tellement niaiseux. Moi, je pense que ça devrait être la règle. Tu vas te déplacer pour aller chercher ton chèque. On paye l'autobus. Tu montes ta carte. C'est gratuit. Tu te rends au centre Vidéotron. Puis là, il y a des tables. Puis là, tu vas chercher ton chèque. C'est tout. Tu te présentes avec une carte d'identité. Tu vas chercher ton chèque. Juste ça. À ce moment-là, on va voir s'il y a des fraudes ou s'il n'y en a pas, parce qu'on sait qu'il y a des fausses personnes. Des fois, c'est des enfants, des fois, c'est des personnes décédées. Des fois, c'est des faux comptes. Puis, en tout cas, il y avait, je pense, c'était 3 % des gens qui ne s'étaient pas présentés pour aller chercher leur chèque. Ça veut dire que c'est des gens qui n'existaient pas.
Je comprends.
C'est des fraudes.
Mais vous avez l'impression que les politiciens ne se mêlent pas du no-fault parce que c'est trop compliqué?
Parce qu'ils ont peur de déplaire. Et
ça déplairait à qui d'empêcher un criminel de toucher des sommes d'argent? Ça déplairait à qui?
Mais il y a des gens, je me souviens dans le temps, qui disaient « Ouais, ben Marc, les criminels, ils ont une famille. »
Ouais.
Alors, on ne peut pas pénaliser les enfants parce que le père a commis un crime puis a tué quelqu'un en auto. Je dis « Pourquoi on ne pénaliserait pas les enfants? » Dans le sens que, je sais pas, moi, si je travaille dans une usine, je gagne 30$ de l'heure, puis je perds ma job.
Les enfants vont être pénalisés.
Quand
même.
Oui.
Ouais.
Puis là, le père va asseoir ses enfants autour de la table puis il va dire « Je suis un imbécile parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis c'est pour ça que vous n'aurez pas votre école privée, c'est pour ça que vous n'irez pas dans un camp de vacances, c'est pour ça qu'on n'ira pas à Acapulco cette année, etc. » Alors oui, il y a des conséquences sur les enfants, mais en même temps, ça fait partie du fardeau que doit supporter la personne qui a commis un acte criminel. C'est quoi le problème, là? T'sais, le gars qui vole une banque, là, il s'en va en prison. Les enfants vont crever de faim pendant que le père va être parti. C'est le pourvoyeur de la famille.
Ouais.
Mais il répondra à ses enfants le reste de sa vie,
exact.
De cette période-là où il est allé en prison parce qu'il a fait une connerie. Pourquoi, quand c'est un accident d'auto, on va continuer de payer toutes les dépenses, on va te donner un remplacement de revenus qui fait que dans la famille, il n'y aura pas de changement? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on banalise le crime? T'es en prison, t'es privé de liberté, mais en même temps, on n'a pas toute cette facette financière là, qui fait partie du crime et des conséquences dans ton environnement proche. Alors, mais c'est ça, c'est cette espèce d'esprit de bottine qui fait que ça n'a jamais bougé. Et quand je vois des gens qui viennent me voir au bureau, des victimes d'accidents criminels sur la route, puis qui me disent « je veux le poursuivre », j'en ai eu encore un ce matin, je veux poursuivre telle personne parce que j'ai eu une vidéo, puis tout. Puis les gens pensent qu'on peut poursuivre quelqu'un qui a commis un acte criminel au volant. J'ai une vidéo de la bonne femme, elle m'a foncé dessus. Un gars, un matin, qui m'a appelé de Montréal, j'ai dit « Monsieur, depuis le 1er mars 1978, on ne peut plus poursuivre au Québec pour des cas comme ça. » Mais non, M. Bellemare, j'ai une vidéo, j'ai tout. Le gars, ça m'a pris 15 minutes pour le convaincre. Mais j'ai dit « Regarde, j'ai dit, c'est une loi de fou, c'est une mauvaise loi, mais c'est une loi. » Et tu peux pas poursuivre. Fait que t'envoies ta paperasse à la sac, puis tu vas chercher ton chèque. Puis elle, ça s'est blessée, elle va en avoir un chèque elle aussi. Les gens sont sans... Mais c'est quand ça leur arrive souvent qu'ils vont prendre conscience de cette injustice-là. Mais ça fait 45 ans que c'est comme ça au Québec, Yann. Puis moi, j'en perds mon latin, mais je me dis, ça, c'est une problématique. Mais il y en a combien d'autres ailleurs? Parce que moi, je connais ce domaine-là, je ne connais pas toutes, là. Mais, tu sais, dans plein de secteurs, il y a des incongruités puis des folies comme ça. Puis c'est quand on parle de Poilievre au fédéral, conservateur, lui, ça l'écarte, ces affaires-là. Puis moi, je suis content d'avoir quelqu'un qui est écœuré. Il ne changera pas le no-fault parce qu'il est au fédéral, mais je pense qu'il va mettre fin à un certain nombre d'aberrations qui ont cours au sein du gouvernement fédéral depuis... X années, j'ai l'impression.
Il faut faire attention à ce que Pierre Poilievre a dit, qu'il fallait faire attention à l'argent des contribuables. Et ça, ça a fait en sorte que le maire de Québec, Bruno Marchand, est sorti en disant que Pierre Poilievre est un populiste.
En passant, Poilievre n'a pas dit que Marchand était un maire incompétent. Marchand n'a pas dit que Madame la mairesse de Montréal, Valérie Plante, était une incompétente. Il a nommé personne. Il a dit, si vous avez un budget de 3 milliards, vous allez respecter votre budget.
Exact.
Sinon, vous êtes incompétent, puis c'est pas moi qui va boucher le trou puis qui va combler votre milliard ou votre 2 milliards de déficit parce que vous ne savez pas compter et que vous êtes un maire incompétent.
Ça, ça a
si Marchand, s'est senti visé, c'est son problème. Mais moi, je me suis dit au début, parce que la manchette encore là, le titre dans le journal,
c'était trompeur.
Ça disait, il ne paiera pas les maires incompétents. Puis là, je ne sais pas si on voyait la face de Marchand. Ouais. Encore là, c'était un mauvais reportage. C'était mal fait parce que ça laissait croire que Poilievre traitait les maires d'incompétents, possiblement. Puis peut-être que le maire de Québec a regardé la même manchette que moi puis il s'est senti visé puis il a réagi trop vite.
Moi, c'est vraiment la citation de François Legault. Qui dit, ah, moi, ce projet-là, c'est Québec, c'est la ville de Québec qui le gère.
Non, mais tu sais, c'est... Moi, je suis d'accord.
Le gars a pris le singe, puis l'a retiré à Québec.
C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais un tramway qui coûte 3 milliards, que tu annonces, puis tu te fais élire là-dessus, puis tu as un plan, puis tu as des budgets, puis tu as consulté les meilleurs experts en finance ou dans génie ou n'importe quoi, c'est 3 milliards, puis tu annonces ça, puis tu dis au fédéral, ça va coûter 3 milliards, puis le fédéral l'approuve, tu vas avoir 3 milliards. Si ça dépasse d'un milliard parce que tu ne sais pas compter ou tu n'as pas tenu compte de l'inflation possible ou tu n'as pas tenu compte d'une pénurie de main-d'œuvre parce que ça faut que tu prévois ça quand tu fais des prévisions budgétaires pour un programme de 3 milliards.
À chaque gros projet comme ça, même si on travaille dans une entreprise, on fait des petits projets, il y a toujours une contingence, tu sais, les tant qu'à y être, ou les en au cas où, tu sais, il y a toujours une contingence. Puis dans le public, les contingences peuvent pogner quasiment, des fois, c'est 50 %. J'ai déjà vu ça dans le public, ce qui n'a pas de maudit bon sens. OK, ça coûte 1 milliard. Fait que là, ouais, on va mettre une contingence. Là. On va mettre. Ça va total tout, c'est 1,5 milliard. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'une entreprise privée, je vous le dis franchement, j'en ai fait des projets. Puis quand je parlais de 7-8 % de contingence, là, mes boss me regardaient. Puis ils me disaient t'es peu, là, t'es en train de me dire que ça se peut que ça coûte 7-8 % de plus que ce que tu me demandes. Là. Ben là, il va falloir que tu surveilles ce projet-là. Là. Mais là, on n'est plus rendu là pour ce qui est du tramway de Québec. On parlait d'un projet de 3,2 milliards de dollars qu'on a rapetissé, qui serait rendu à plus de 4 milliards, et les rumeurs nous parlent de 10 milliards de dollars.
Mm-hmm.
Et là, t'as Bruno Marchand qui est bien stressé parce qu'il s'aperçoit que ça se peut qu'il y ait un changement de régime en haut, là, au fédéral, puis ça se peut qu'il n'ait pas son argent, là.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, qu'un premier ministre dise ça, c'est quand ça tranche quand même avec les libéraux auxquels on est habitués, qui eux autres vont dire OK, il y a des. Parce qu'eux autres, même dans la gestion de l'appareil fédéral, sont complètement hors de contrôle. Alors, il y a arrive un gars qui dit la récréation est finie. Puis ça a toujours été la force des conservateurs. Je ne sais pas si tu te souviens. On s'apercevait de ça avec Mulroney, avec Harper. Les libéraux dépensent. Puis à un moment donné, les conservateurs arrivent, puis là, il y a de l'austérité budgétaire.
Puis là,
les libéraux reviennent, puis se remettent à dépenser sur les surplus ou sur la bonne gestion des conservateurs. Ça a toujours été. Mais là, je pense qu'on atteint des niveaux de déficit record. Et moi, que Poilievre dise ça, je trouve que c'est plein de sens. Ça veut dire gérer comme du monde. Moi, si je sais pas, j'ai une fille de 14 ans qui s'en va magasiner, puis qui me dit « Papa, je m'en vais magasiner, je m'en vais habiller pour l'école. » L'école commence en septembre, puis elle me dit « ben ça va coûter à peu près 300 $ Puis j'ai dit « OK, ça va coûter 300 $ Elle en dépense 500. Je vais dire « Le surplus, c'est toi qui vas le payer. Puis tu vas t'organiser pour y trouver l'argent. » Puis c'est comme ça partout. Si moi, je dépense plus que ce que j'ai, ben, je m'en vais sur la carte puis je vais devoir m'endetter.
Ah, mais ben, Bruno Marchand qui traite Pierre Poilievre de populiste, alors que Pierre Poilievre dit juste non, non, chaque dollar que vous dépensez, ouais, c'est pas à vous, c'est aux contribuables, il faut faire attention. Mais bref, je pense que Marchand est de moins en moins populaire et c'est une très, très bonne nouvelle.
Il se fait beaucoup d'ennemis jour après jour. Je trouve ça assez. Parce que ça fait 2 ans qu'il est là. Il se fait beaucoup d'ennemis. Je comprends que de temps en temps, il a le droit de péter sa coche. Je me souviens du maire Lallier qui pétait sa coche puis qui disait ça n'a pas de bon sens à tel gouvernement, puis il avait raison souvent de péter sa coche. Mais c'était... faut choisir nos combats dans des cas très importants. Là, j'ai vu le maire Marchand, depuis 2 semaines, s'en prendre à Poilievre, qui s'en va peut-être vers un gouvernement majoritaire, peut-être aussi minoritaire. En tout cas, il va peut-être être battu aussi, on ne sait pas. C'est quand même pas demain les élections, mais on verra. Mais c'est quand même pas très prudent de l'attaquer comme il l'a fait. Surtout sur une déclaration qu'il n'a pas faite ou qui était mal comprise. Mais là, il s'est pogné aussi avec... avec le ministre des services sociaux,
Lionel
Carman, sur la question de l'itinérance. Ça, c'est le fun. Des fois, on n'haït pas ça, avoir un maire qui prend un leadership de certains dossiers, mais je trouve qu'en très peu de temps, il s'est fait beaucoup d'ennemis.
Ouais.
Puis on sait qu'il n'y a pas nécessairement la faveur des caquistes dans la région de Québec, en général. Alors, c'est beau avoir des combats, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça nuise non plus à la Ville de Québec.
T'sais. De là, ma réaction, Maître Bellemare, quand j'ai vu François Legault se laver de tout ça en disant « Nous, le projet de tramway, c'est pas nous qui gérons ça, c'est la Ville de Québec. » Puis pour savoir un peu comment ça se passe à l'interne, là, la sortie de Lionel Carman était planifiée, puis il y a eu un hockey d'en haut. Là, parce que jamais Lionel Carman aurait décidé de se coltailler avec Bruno Marchand. Là.
C'est... On baisse le ton, qu'il dit.
Oui, c'est ça.
Mais tu penses que tu penses qu'on baisse le ton, ça venait d'en haut? Moi, je pense que ça venait de lui.
Non, 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 c'est un call d'en haut, ça. Ils peuvent pas se permettre d'entrer en guerre avec des maires et des mairesses, là, surtout pour ce qui est de Montréal et de Québec. Hey, je parle d'un dossier qu'on a vu passer dans le soleil sous la plume de Judith Demeule. On parle d'une décision du tribunal du travail. On parle de la dénutrition sévère qui peut être une lésion professionnelle. Vous en connaissez un peu plus sur le dossier puisque c'était une de vos clientes?
Oui, oui, c'est une cause que j'ai gagnée pour une fille qui a été attaquée par un frustré des mesures sanitaires. Un gars là, qui n'était pas content, puis il y avait peut-être des raisons.
Elle était agente de bureau, puis pendant
la COVID... elle était agente de sécurité. C'est elle s'occupait de la sécurité dans un centre de santé.
C'est
qui...
Mais au départ, elle était adjointe administrative. Puis là, il y a eu la COVID, puis elle a décidé de s'en aller justement en sécurité.
Exactement. Et est en sécurité. Donc, elle s'occupait de s'assurer que les gens respectaient les mesures sanitaires, comme il y en avait dans à peu près tous les postes publics au Québec, les commissions scolaires, les hôpitaux, CLSC, etc. Puis, il y a un gars qui n'a pas aimé qu'elle lui rappelle l'importance de respecter les mesures sanitaires. Je n'ai pas le détail si c'est un masque ou si c'est ou faire la file ou respecter à distance, mais en tout cas, c'est en lien avec les mesures. Et ce monsieur-là s'est lâchement attaqué à cette dame-là pour lui causer de multiples lésions à la mâchoire, des fractures, etc.
Okay, il l'a frappé assez fort.
Assez fort, puis c'est un homme assez costaud. Et de sorte que la personne, la victime, ma cliente, a été blessée gravement. Puis là, il s'en est suivi un problème de nutrition, un stress post-traumatique, incapacité de sortir à l'extérieur, cauchemar, etc. Donc, une dénutrition, c'est-à-dire un amaigrissement, une quarantaine de livres qui ont été perdus. Et évidemment, elle s'est nourrie aux smoothies pendant un temps assez prolongé. Alors, ça a causé toutes sortes de troubles alimentaires. Et la CNSST disait non, non, nous autres, on paye pour le psychologue, là, puis pour la mâchoire, mais on ne paiera pas pour les problèmes gastriques, comme si ça n'avait pas d'importance. Alors, c'est sûr que c'est une preuve qui n'est pas facile à faire, parce que tu peux avoir des problèmes gastriques, des brûlements d'estomac, des problèmes de cholestérol sans que ce soit prouvable que c'est en relation avec un accident. La marge est quand même assez haute.
Mm-hmm.
Mais on avait plusieurs éléments, psychiatriques, gastro-entérologues, neurologues, et tout convergeait vers des problèmes en relation avec l'accident.
Il y a même la chirurgienne maxillofaciale qui a confirmé qu'effectivement, pour manger, ça doit être extrêmement difficile.
Ah, c'est ça. Et il y a une pancréatite, puis il y a de l'anémie aussi qui a été reconnue. Fait que c'est une belle décision, et ça veut dire finalement que c'est pas toujours les blessures immédiates au moment de l'accident, mais... La blessure de la blessure est acceptable aussi. Si tu as un problème de jambe puis tu boites parce que tu as une jambe qui a un centimètre de plus courte que l'autre, tu vas développer des maux de dos à force de boiter et d'avoir une démarche tout croche.
Corps est débalancé.
C'est ça. Moi, j'ai déjà eu une victime d'accident de la route qui avait été amputée en bas du genou d'une jambe. Ils ont accepté l'amputation. Après ça, elle a commencé à boiter. Après ça, j'ai fait accepter un problème de dos en lien avec la boiterie. Après ça, un problème à l'autre genou. Puis après ça, une dépression. Fait qu'elle a fini par être invalide, tu comprends bien. Mais il reste qu'il y a eu 4 dossiers, toujours en lien avec le même accident. Donc, l'aggravation, c'est pas toujours la blessure directe qui s'aggrave. Des fois, ça peut être un autre joint ou une autre peinture qui va briser.
Mais dans les dossiers de CNSST, là, quand vous avez des dossiers de CNSST, est-ce que les gens viennent vous voir au début du processus ou quand ils reçoivent des noms?
Des fois, ils viennent un peu tôt. Puis à ce moment-là, je leur donne quelques conseils, puis je leur dis, écoute, à tel moment donné, il va arriver telle affaire. À tel moment donné, ils vont vouloir te retourner travailler. Ils vont mettre de la pression sur ton médecin pour que tu arrêtes les traitements. Alors, il faut que tout le monde se tienne là-dedans. Il ne faut pas se laisser influencer.
Mais vous connaissez le modus operandi.
Ah, totalement. Puis là, je leur donne des conseils, puis je leur dis, quand tu vas arriver à telle étape, rappelle-moi, puis on se reverra, puis on fera le point. Alors, des fois, c'est un peu tard, mais j'ai toujours quelque chose à leur dire. Il y a toujours quelque chose qui est à dire en termes préventifs. Des fois, c'est le médecin qui est tout croche. Quand le gars rentre dans le bureau et qu'il dit « Mon docteur, quand j'ai dit que j'étais en dépression puis que je pleurais 3 fois par jour, il est parti arrêter puis il a dit « Je sais pas moi, va voir un bon film. » Des niaiseries de même, là. Mais je dis « Garde, ton médecin, tu trouves pas qu'il rit de toi, là? » Fait que dans ce temps-là, je dis « Là, tu vas changer de médecin. Tu vas trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de toi parce que ton médecin, dans ces dossiers-là, c'est un allié. » Ça ne peut pas être un adversaire. Tu as assez d'adversaires de même, ça te prend un allié.
Ouais.
Et à ce moment-là, quand je vois que le médecin est complètement dans le champ, je dis, quand tu vas nous flusher ça, puis on va en trouver un autre. C'est sûr que c'est pas facile, là. Mais il y a de la médecine privée. Il y a des médecins dans le public aussi qui prennent encore des patients. Mais ça, c'est un élément très important qui n'a rien de juridique. Mais je sais que s'il reste avec ce cabochon de docteur-là, il va se retrouver à un moment donné avec des problèmes parce qu'en vertu de la loi sur les accidents de travail, tu ne peux pas contester ton médecin. Depuis 1985, là, quand le médecin dit, je ne sais pas moi, mettons que tu as une hernie discale, mais lui, il ne croit pas à ça, puis il dit non, c'est juste une petite contusion dans le dos, il marque contusion, mais il n'y a pas d'hernie discale. Tu ne peux pas contester ton propre médecin. Alors, quand tu rentres dans le bureau du médecin, c'est lui le boss, puis ce qu'il dit, tu ne peux pas le contester. Fait que c'est quelque chose de majeur. À la SAC, c'est pas comme ça, mais à CSST, c'est comme ça.
OK. Mm-hmm. On termine avec ça, Maître Belmont. Il nous reste à peu près 3 minutes. Là. On parle des délais incontrôlables dans le système de justice. J'ai l'impression qu'au Québec, tout craque. Là.
Ben, tu sais, on parle de la santé, puis tu disais ça, 1 milliard par année, c'est, par semaine, par c'est semaine. Vrai, c'est 60 milliards par année pour un système de coco. L'éducation, on n'est pas obligé d'en parler, de revenir là-dessus. On sait que ça ne marche pas, mais la justice, quel fiasco, tu sais. Le Jordan, les délais de cours, les salles, il n'y a pas d'huissier, audiencier, on manque de personnel, on règle à rabais dans les causes de nature criminelle, puis là, on n'a rien vu encore. Je pense qu'on s'annonce un automne très chaud. Là, tu vas avoir des criminels, des batteurs de femmes, des soulons qui vont s'en sortir sans aucun casier judiciaire, parce qu'il n'y aura même pas de procès. Et non, ça ne va pas bien. Moi, je pense qu'on traverse une crise, là. C'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, inflation, mais je pense que la CAQ a un problème de gestion. Je pense que je commence à me questionner, moi, sur la qualité de gestion de ce gouvernement-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui sait gérer. Pourtant, Legault, c'est pas un mauvais gestionnaire. Il a quand même mis sur pied Air Transat. C'est un homme d'affaires. C'est un des rares premiers. Non, mais
il était
écoute.
Il n'était pas de seul.
Non, non, mais c'est mieux que Couillard puis Charest. Il était pas seul docteur avocat. Lui, c'est un homme d'affaires.
Il était pas de seul là-dedans. Puis quand il est parti, il a trahi ses partenaires d'affaires.
Je le sais, mais tu sais, de là, les attentes qui sont trompées parce que moi, je me disais, Legault en 2018, moi, j'ai voté pour Legault en 2018 quand la CAQ est arrivée. Là,
vous êtes
content.
Un cacu!
Non, on sortait.
Vous êtes
on
un
sortait,
cacu!
On sortait libéraux, c'était un jour de fête. Mais il reste que j'ai voté pour lui en bonne partie parce que c'est un homme d'affaires. Comme beaucoup d'Américains ont voté pour Trump parce que c'est un homme d'affaires qui a réussi. Et là, je regarde le gouvernement qui dirige, puis je me dis, c'est-tu le seul qui s'est compté, là? Peut-être que c'est ça le problème, parce que Il y a un problème assez généralisé à plusieurs niveaux, au niveau de la gestion de l'appareil gouvernemental.
Mais Simon-Jolin Barrette,
je pense que c'est endémique.
Simon-Jolin Barrette, c'est le leader parlementaire du gouvernement. C'est le ministre de la Justice. Il est avocat de formation.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de redresser ça? Je ne comprends pas.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de budget, là. Ça, c'est un gros problème. Il n'est pas capable de payer son monde. Il s'est chicané avec la juge en chef de la Cour du Québec. Il n'a pas toujours eu tort, là, tu sais, sur la question des juges bilingues puis tout ça. Moi, je pense qu'il a raison sur bien des aspects. Mais il reste que, effectivement, il n'y a peut-être pas assez d'autorité, je ne sais pas, par rapport au système judiciaire, aux juges, au personnel.
Les avocats qui sont malades, au DPCP. Les juges qui sont malades.
Il n'y a peut-être pas l'autorité qu'avait Herbert Marx ou Gilles Rémillard quand il était ministre de la Justice, oui. Des ministres, Marc-André Bédard, des Gaulle, qui ont tenu l'appareil judiciaire dans l'efficacité.
Je lisais en fin de semaine, je pense que c'est dans la presse, où on parlait qu'au Palais de justice de Québec, des fois, on demande à ce que des détenus soient montés sur les étages pour assister à leur propre procès, puis il n'y a pas d'employés, il n'y a pas d'agents de sécurité là, suffisamment pour réussir à faire monter tout le monde à la bonne heure. Des fois, ils sont 15 minutes en retard, une demi-heure en retard, 45 minutes en retard. Mais qu'est-ce qui se passe?
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche dans le gouvernement.
Mm.
Et je pense qu'on ne voit pas tout, là. On voit les palais de justice qui ne fonctionnent pas. On voit les criminels qui sont libérés à cause de l'arrêt Jordan, incapable de faire les procès dans les délais qui sont impartis, qui sont considérés raisonnables. On a un système de santé qui ne marche pas, l'éducation, ça ne va pas bien. C'est sûr que c'est un problème de gestion, je ne sais pas, mais je sais que la prochaine élection au Québec va être difficile pour la CAQ. Et dans Jean Talon, moi, je suis convaincu qu'ils vont perdre le comté, là, parce que là, il y a un mouvement d'insatisfaction. Moi, je vis dans Jean Talon, puis je peux te dire que le monde n'est pas content.
Mais j'ai hâte de voir la suite, mais qui prendrait le pouvoir? Il n'y a pas aucun parti qui est prêt demain matin à prendre le pouvoir. C'est pas le Parti conservateur du Québec. C'est pas le Parti libéral actuellement dans l'État où il est. Puis c'est pas Québec solidaire non plus. Fait qu'il reste quoi, tu sais?
Bien, il va rester un partage des comtés, 125 comtés, le PQ, solidaire, la CAQ, je sais pas.
Ouais.
C'est quand même pas demain qu'il va y avoir une élection. On n'a même pas fait un... octobre, on n'a pas fait un an encore dans le deuxième mandat de Legault. Mais il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que là, il y a beaucoup d'insatisfaction.
Dossier avec la SAC, l'IVAC, la CNESST, belmoreavocat.ca.
Absolument.
Merci Anytime. Beaucoup.
Salut, bonne semaine.
On
bye
fait
bye.
Une pause, on vient.
Marceau, le soir.
102.1.
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock.
All time low. Calm down. Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Dimanche, le 17 septembre, encourage le Rouge et Or. Assiste à la plus grande rivalité au Québec à 13h, au Stade TELUS, où le Rouge et Or affrontera les Carabins de l'Université de Montréal. Viens t'échauffer avec ta gang au tailgate d'avant-match Boulevard 102.1. Consommation, bouffe, pis ben du fun t'attendent. Cours la chance de gagner une carte cadeau de notre collaborateur, Laurier Québec. Dimanche, 17 septembre, le Rouge et Or contre les Carabins de l'Université de Montréal. Billets au rougeetor.ulaval.ca. Bienvenue à Québec.
Découvrez les restaurants Couteau, Pokéball, Tartare, Décadent, Cocktail et vin en salle à manger et take-out. Couteau Beauport, Neuchâtel et Saint-Joseph, les plus grosses portions de tartare en ville.
En quête d'aventure, partez à la découverte du Mazda CX-50. Conçu pour affronter presque tous les terrains avec sa traction intégrale iActive de série, le Mazda CX-50 vous offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 3500 livres et tout l'espace de chargement dont vous avez besoin pour partir explorer. En plus, profitez dès maintenant de 2 ans d'essai des services connectés Mazda et de la garantie à kilométrage illimité. Venez vite découvrir le CX-50. L'aventure vous attend chez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Logibourg est propriétaire d'immeubles depuis plus de 45 ans et depuis tout ce temps, nous prenons soin de nos logements et de nos locataires. Venez vous-même le constater. Goûtez enfin un service de qualité et trouvez le logement que vous recherchez. Trouvez le logement parfait pour vous au logibourg.com.
Que vous vous rendiez au bureau quelques fois, souvent ou trop souvent à votre goût, le RTC a une offre adaptée à vos besoins en déplacement. Pour des déplacements occasionnels, on propose le lot de 20 billets à utiliser quand vous le voulez à 3 $ par billet. Sinon, pour des déplacements illimités, on propose l'abonnement perso à moins de 20 $ par semaine. Tous les détails au rtcquebec.ca/télétravail. Le RTC, on bouge avec vous.
Tous les clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinet sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner.
Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Cayo Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec.
Miville, ce sont vos spécialistes en climatisation, chauffage et thermopompe depuis plus de 55 ans. En ce moment, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais à l'achat d'une thermopompe Fujitsu. Que ce soit pour une thermopompe murale ou centrale, Fujitsu fabrique les thermopompes les plus efficaces sur le marché. De plus, obtenez jusqu'à 6275 $ de subvention et un prêt sur 10 ans sans intérêt avec Maison Verte. Certaines conditions s'appliquent. Miville, le leader au Québec en climatisation et chauffage. Miville.ca.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Mark Zuckerberg trippe tellement sur les arts martiaux mixtes qu'il a essayé de faire une jambette à boulevard sur Facebook et Instagram. Vous ne trouvez plus sur ces plateformes? Pas de trouble. Pour rester informé sur ce qui se passe à Boulevard, l'app Boulevard 102.1, l'infolettre, TikTok, YouTube, X, c'est l'affaire qui s'appelait Twitter, et le BLVD.fr.
Boulevard
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Ben oui, comme disait le monsieur avec la grosse voix, tous les podcasts sont disponibles sur l'application Boulevard. Je vous invite d'ailleurs à la télécharger. Vous pouvez l'utiliser où vous voulez, les amis. Puis, ben, tout comme ce soir, l'entrevue avec Maître Marc Bellemare d'à peu près 50-55 minutes va être mise en place dans les prochaines secondes. C'est moi qui se charge de ça. Quand je l'oublie, ben, souvent je le fais le lendemain matin, mais on essaie de le faire le plus rapidement possible, les amis. Actuellement, sur Québec, c'est encore très confortable. Je salue les gens qui sont à moto, qui profitent des derniers balbutiements de l'été. L'automne s'en vient, ça va être de toute beauté, les couleurs. Toujours le fun de se promener à moto. Donc, c'est 19 degrés, quelques nuages pour ce soir, minimum de 12. Pour ce qui est de demain, ça va être des probabilités d'averses à 60 %. C'est ce qu'on nous mentionne, maximum de 20. En soirée, ce sera des averses 10 à 15 mm annoncées, minimum de 16. Mercredi, pluie intermittente, maximum de 19. Jeudi, ben là, c'est le retour du soleil. C'est la bonne nouvelle. Alternance du soleil-nuage avec un maximum de 18. Et vendredi, ensoleillé, maximum de 22 degrés. Puis on devrait tenir le coup pour ce qui est du week-end. Là, on parle de soleil pour samedi, dimanche, donc en espérant que ça ne change pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. C'est le chum Max qui s'en vient dans les prochaines minutes. Puis nous, ben, demain, 11h, on se rejoint pour ce qui est de Marceau le midi. Salut, merci d'avoir été là. Ciao.
Marceau le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Tes vacances ont coûté cher, puis le retour au travail est difficile. Ah ouais, chez Chaloux, le plus grand choix de bière au meilleur prix. Accommodation Chaloux, tu la mérites, ta bière.
Lorsque vous êtes au volant du nouveau Kia Sportage, le monde semble disparaître autour de vous. Avec jusqu'à 839 km d'autonomie en mode hybride et des technologies de sécurité comme l'assistance intelligente de stationnement télécommandée, le Kia Sportage vous offre une expérience de conduite centrée sur vous. Disponible en version essence, hybride et hybride rechargeable. Achetez votre Kia Sportage dès aujourd'hui. Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Pour un temps limité seulement, découvrez le Maquis California épicé dans les restaurants Yuzu. Un délicieux classique revisité dont vous brûlez d'envie. Commandez en ligne au yuzu.ca ou via l'app Yuzu et ajoutez du piquant dans votre commande. Yuzu, c'est toujours bon.
Miville, ce sont vos spécialistes en climatisation, chauffage et thermopompe depuis plus de 55 ans. En ce moment, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais à l'achat d'une thermopompe Fujitsu. Que ce soit pour une thermopompe murale ou centrale, Fujitsu fabrique les thermopompes les plus efficaces sur le marché. De plus, obtenez jusqu'à 6275 $ de subvention et un prêt sur 10 ans sans intérêt avec Maison Verte. Certaines conditions s'appliquent. Miville, le leader au Québec en climatisation et chauffage. Miville.ca.
Boulevard 102, la radio de toutes, tout le monde, tout le temps.
Puis ton garçon?
Pas mal occupé. En plus de l'école, il vient de commencer à travailler.
Ah oui? Dans quoi?
Dans un cadre.
Oui, de nouvelles normes encadrent le travail des jeunes grâce à d'importantes modifications apportées à la loi sur les normes du travail. Ce nouveau cadre, qui permet l'accès à l'emploi à partir de 14 ans, tout en limitant le nombre d'heures de travail hebdomadaire, assure à nos jeunes un environnement sain et sécuritaire, comme pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Québec. Les normes du travail, bien encadrées pour mieux travailler. Un message de la CNESST.
5 jours seulement, de jeudi à lundi, le 3e contenant de Régal Select est gratuit. Régal Select est un produit de qualité supérieure qui procure un fini durable et lavable. Profitez de cette offre exceptionnelle chez votre détaillant Benjamin Moore participant. Détail en magasin.
Le sentez-vous? Ça sent la performance, ça sent le raffinement, ça sent le plaisir de conduire, ça sent le Rogue flambant neuf de Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan. Montez derrière le volant d'un Rogue SV à traction intégrale et sentez la bonne affaire. En location 64 mois à seulement 470 $ par mois avec léger comptant. Et vu qu'on sent que vous êtes dû pour changer, on rachète votre véhicule au meilleur prix, peu importe la marque. Détail pendant l'événement Mission Sensation chez Saint-Nicolas-Nissan. Nissan, Montmagny Nissan et Paquette Nissan.
6h du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio. Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Ben oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit.
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit.
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant, j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean-Steve.
Boulevard!
102.1 Boulevard 102.1.
C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Oh, ça c'est du rock.
Excellent lundi 11 septembre 2023, Max Larouche qui s'installe pour au-dessus d'une heure de bonne musique. Question de bien lancer la première soirée de la semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, gros week-end de football de mon côté avec le Rouge et Or, victoire éclatante samedi. Hier, premier dimanche de NFL de la saison. Colin, que je me suis rappelé à quel point ça faisait du bien de s'écraser devant la TV à 13h. Puis après ça, ben d'en avoir pour toute la journée jusqu'au moment où on doit aller faire dodo. Fait que non, belle journée hier, super le fun. Puis c'était cool aussi d'en parler ce matin avec Reg, avec Jeff, d'en reparler après ça dans le retour avec la gang de Gravel. Fait que vive le football. Puis pendant ce temps-là, il y a le Canadien aussi qui tranquillement va reprendre ses activités dans les prochains jours. Fait que le sport qui est parti pour de bon, mesdames, messieurs. En musique, pour repartir le show en séquence rock, Imagine Dragons, Måneskin, Muse, The Record Company, Weezer. Et tout de suite, un des classiques de Smash Mouth, Walking on the Sun à Boulevard.
No joke, I like to buy the world and teach the world to sing in perfect harmony and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fast for the recipe. This is a love attack. I know it out, but it's back. It's just like any fat. It retracts before and back. And just like fashion, it's a passion for the wizard and him. If you got the goods, they'll come in, buy it just to stay in the clique.
is in bloom. The PIA transmissions will resume. Now try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All the green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined.
And I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so freaking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's really pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna meet ya. I wanna be a lover, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby, I'm your deathbed and you're my Goliath. Because I'm the devil who's searching for redemption, and I'm a lawyer who's searching for redemption, and I'm a healer who's searching for redemption. I'm a monster who's searching for redemption, and I'm a bad guy who's searching for redemption, and I'm a longer who's searching for redemption, and I'm a freedom who's searching for redemption. I'm a monster who's searching for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. Be the monster.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip.
on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip.
Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die.